Bonjour Guy de Lille, je suis ravie de vous rencontrer. J'avais plusieurs petites questions à vous poser, parce que ça fait très longtemps que je vous connais, par vos dessins, pas vous-même. Donc la première, c'était quand est-ce que vous avez commencé à dessiner ? Parce que j'ai connu des dessinateurs de BD, et c'était le genre d'adolescent à être toujours en train de griffonner sur un bout de papier des cow-boys, des indiens. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces jeunes ados ?
Ouais, je peux dire, ouais, moi j'ai toujours dessiné jeune, et habituellement les gens ils arrêtent de dessiner vers 12-14 ans. Moi j'ai continué, puis j'étais un ado assez renfermé, et pour dessiner c'est pas mal. Donc en fait je me suis plongé dans le dessin beaucoup, j'ai progressé, et puis après j'ai fait une école de dessin animé, et là j'ai progressé beaucoup, parce que là il y avait des gens qui dessinaient vachement mieux que moi alentour de moi, et ça c'est très motivant. Et après, j'ai travaillé dans le dessin animé, et donc voilà, j'ai toujours dessiné. Dans le dessin animé, c'est beaucoup, parce que là, on dessine 40 heures par semaine. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres histoires en bande dessinée. Et là, c'est pareil, en fait, tous les jours, à peu près tous les jours, je dessine quand je travaille. Après, entre certains albums, il y a un temps de réflexion. Mais comme là, je termine un album, je dessine pas, mais comme je dessine pas, j'ai envie d'aller faire des croquis, donc... L'autre fois, j'étais chez le médecin, j'avais mon carnet de croquis en attendant. J'ai dessiné tous les gens qui attendaient alentour de moi.
Et je voulais vous demander, donc, quel a été le point de bascule entre l'animation et la BD, à quel point vous êtes arrivé au niveau professionnel et à quel moment vous avez réussi à en vivre en fait, de la BD?
Ouais, ça a été progressif, moi. Il n'y a pas eu de moment où tout a changé. C'est-à-dire que j'étais avec une maison d'édition qui faisait du noir et blanc, que j'ai repéré en me disant, tiens, eux, ils font des trucs qui me plaisent. C'est des gens... En gros, c'était des gens de mon âge qui faisaient des bandes dessinées pour les gens de mon âge. Et je leur ai envoyé des histoires courtes par la poste. Voilà, ça a fonctionné. J'en ai fait comme ça. Et je me disais, en gros, je vais toute ma vie faire des petites histoires courtes pour eux. Et puis, je vais vivre du dessin animé. Et à un moment, je m'étais dit, parce que la bande dessinée que moi, je faisais, a tout à coup appris. Beaucoup de gens s'y intéressaient. Mon premier livre, Shenzhen, a eu quand même un peu d'écho. Et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être me concentrer que là-dessus. Donc en fait, voilà, j'ai pris un espèce de congé sur l'animation en me disant, on verra ce que ça donne. Je venais de sortir Pyongyang, qui a marché au-delà de mes espoirs, en fait. Et puis à l'époque, il y avait aussi Marjane Satrapi qui faisait ses livres, qui marchaient très bien dans un secteur qui était un peu le mien. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen. Et il y a un public qui s'est mis à relire de la bande dessinée et qui avait envie, un peu comme moi, qui avait envie de lire ce genre de bande dessinée pour les gens de mon âge. Et donc, voilà, après, je ne suis jamais retourné au dessin animé parce que donc, ça a été assez progressif où j'ai fait un livre, deux livres, trois livres. Le succès aidant, je me dis, tiens, je vais continuer. Et puis, ça ne s'est pas démenti et ça a continué. Après, bon, le livre qui a eu le plus de succès, c'est Chronique de Jérusalem, ouais, pour plusieurs raisons. Ouais. C'était Jérusalem, donc c'est pas une ville inconnue comme Shenzhen ou Pyongyang qui dit rien, donc voilà, qui est très connue. Pyongyang, ça attire beaucoup de lecteurs, je crois. Et après, j'ai gagné le prix de la meilleure BD à Angoulême, donc ça a rajouté une couche. Et voilà, ça a été un peu, c'était pour moi vraiment, là, ça a été un cap. Ouais.
Justement, là, je voulais vous demander, entre Shenzhen, donc le premier, et Pyongyang, récit de séjour à l'étranger, il y a une grosse différence dans le graphisme. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et en fait, on voit d'ailleurs une évolution tout au long de vos ouvrages, avec une graphique beaucoup plus épurée.
Moi, j'arrivais du dessin animé où on change un peu nos outils pour chaque production parce que c'est un autre type de dessin. Donc, j'avais un peu gardé ce rythme, un nouveau livre, une nouvelle technique. Donc, la Chine où j'étais, c'était quand même la Chine en 97 où il y avait beaucoup de construction, beaucoup de pollution. Et puis, dans les marchés, ils jettent tout par terre, c'est assez crade. Donc, il y avait un côté, je voulais essayer de rendre ça, ce côté poussiéreux, ce côté crade. Et donc voilà, j'ai pris une technique qui était assez difficile quand même à utiliser, mais c'était des crayons de cire que j'écrasais l'un contre l'autre pour faire des gris. Ça fait des belles illustrations, mais pour faire une histoire ou une BD au complet, c'était un peu laborieux. Mais bon, j'étais content de développer ça. Et après, quand je suis arrivé en Corée du Nord, à Pyongyang, où là, C'était vraiment très très clean, il n'y a pas de publicité, donc il n'y a pas de rouge, de couleur flash. Tout était un peu gris pâle, je trouvais. Je me dis, tiens, je vais faire plutôt un truc au crayon pour faire des ombres. Je l'ai fait en plus quand j'étais pas chez moi, donc cette BD, donc je travaillais à l'étranger. Et en fait, je l'ai fait à Addis Abeba parce que tout Pyongyang, j'ai dessiné là-bas parce que ma compagne avait une première mission à MSF. J'ai dit, bon, parfait, comme ça, je vais être nourri, logé pendant un an, je peux travailler sur un gros projet. Ça a été Pyongyang et je le faisais comme ça avec de la pierre pour faire des ombres. C'est un peu comme du charbon que je fixais pour faire les ombres. Et ça, c'était pas mal. C'est une technique qui était assez efficace. Donc ça aussi, c'était important. Je me suis rendu compte que quand on fait un livre de 200 pages, il faut quand même en amont se dire je prends cette technique-là parce qu'avec ça, je peux aller assez vite. Ouais.
Oui, d'ailleurs, Shenzhen, est-ce que c'est votre première expérience à l'étranger ou est-ce qu'il y a des pays où vous êtes allé et vous n'avez pas trouvé la nécessité de dessiner et de reporter, enfin rapporter votre aventure hein.
Alors, ça s'est passé. Shenzhen, c'était une combinaison de deux séjours en Chine. Donc à Nanjing, et puis à quand j'étais à Shenzhen. Et donc j'ai un peu regroupé les deux histoires parce que je prenais des notes quand je voyageais comme ça pour le travail. Et ça commençait comme une histoire courte. Et après, on s'est dit, tiens, ça m'avait plu de le faire. Je ne pensais pas refaire d'autres trucs autobiographiques. Et j'étais bien à côté de la plaque. Et en fait, donc j'en ai fait un deuxième. Et puis à un moment, ça a pris la forme d'un livre. Et c'est devenu un livre. Pyongyang, c'était différent parce que Pyongyang, dès le départ, je me dis, je prends des notes et je vais revenir avec assez d'infos pour faire une bande dessinée. Quoique, entre-temps, j'étais allé au Vietnam pour le même travail. J'ai pris des notes. Je suis resté un mois et demi, deux mois, je crois. Et tout s'était très bien passé. Les gens étaient adorables. Le studio fonctionnait bien. Et en revenant, je relisais ces notes et je me disais, en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter d'autre que je me suis bien amusé. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas parce que je vais quelque part que je vais revenir avec l'information suffisante. Bon, en Corée du Nord, au bout d'une demi-heure où je déposais des fleurs au pied de Kim Jong-il et puis il fallait que je fasse mon salut, je me suis dit, bon, ma foi, je crois qu'il y aura matière à faire quelque chose parce que ça a l'air assez étonnant comme pays et puis comme ville. Et bon, je ne me suis pas trompé parce que je prenais des notes et je me disais, ouais, franchement, en revenant... après, quand je reviens, j'ai toujours un doute. Mais après, j'en parle aux gens et tout le monde me dit quoi. Et tout le monde, c'est vrai que c'était assez hallucinant comme pays. Donc après, je m'y suis mis. Après un mois de retour, je m'y suis mis.
Y a-t-il un pays, une personne ou un lieu dont vous parlez dans vos livres qui vous a particulièrement marqué, vous avez un souvenir particulier et pourquoi ?
Alors un pays particulier, c'est la Corée du Nord forcément parce que c'est quand même un pays où pas beaucoup de gens peuvent aller. Il y a toujours moyen d'y aller, hein, mais et puis là-bas... c'est le pays le plus curieux que j'ai vu. En fait, c'est une secte. Quand on est là-bas, les gens fonctionnent comme une secte. C'est pas vraiment c'est pas une religion. C'est pas non plus une façon de fonctionner. Mais ils sont tous, ils sont tous dans un système sectaire. En fait, c'est assez curieux de voir ça. Et bon, en partant, j'étais là en 91, je crois. En partant, je me suis dit bon, ça va s'effondrer. En fait, c'était le dernier pays communiste, staliniste comme ça. Et il est toujours là, en fait, donc c'est affolant. Et on verra si de mon vivant ça va tomber. Mais à l'époque, j'y croyais, là, j'y crois un peu moins. Mais on verra. Et après, dans les personnes qui m'ont passionné, moi, dans les gens qui m'ont étonné, c'est avant de partir à Shenzhen, j'avais lu l'histoire d'un gars qui s'appelle Christophe André, qui avait réussi à s'évader d'un kidnapping. Et j'en parle dans Shenzhen. Je mentionne son nom parce que. Ça m'avait fasciné et je me sentais un peu dans une situation de kidnapping, en tout cas de grand isolement, parce qu'à Shenzhen, personne ne parlait français, bon, ça je peux comprendre, mais anglais, donc ça m'étonnait un peu plus. Et je revenais sur l'histoire de Christophe André. Donc après, je l'ai rencontré, il s'est devenu un copain et je l'ai enregistré et j'ai fait son histoire. Et bon, moi, ça fait partie des histoires qui m'avaient le plus passionné. Quand il me l'a raconté en détail, je me suis dit, il faut faire une BD avec ça.
Ça tombe bien parce que j'allais vous poser la question justement comment vous aviez rencontré Christophe André et pourquoi vous vous étiez attaché à son histoire. Voilà. Enfin bon, on peut comprendre pourquoi. Pourquoi donc les deux premiers ouvrages donc à Shenzhen, Pyongyang, et après ça devient des chroniques. Ouais. Pourquoi ?
Parce qu'après là, je pouvais les faire en fil continu pour la Chine parce que j'étais allé deux mois, trois mois en Chine, deux fois trois mois. et je pouvais raconter un peu du début à la fin. Et quand je suis parti, pareil pour la Corée du Nord, j'étais là pour 2 mois, c'était pour mon travail. Alors que les autres, ben, je suivais ma compagne pendant 1 an avec une vie de famille. Et là, 1 an, je me disais, là, il y a des trucs drôles. Et c'est devenu une forme de chronique parce que je racontais ma vie pendant 1 an, mais pas d'un fil continu. C'est-à-dire que je parlais à un moment de la censure quand j'étais en Birmanie, comment elle était traitée là-bas, les gens que j'ai rencontrés. Tout ça, ça faisait des petites histoires courtes presque qui s'emboutaient une après l'autre et qui faisaient tout le parcours. Et ça me paraissait plus naturel d'appeler ça chronique.
Même pour les chroniques de jeunesse, du coup.
Après, j'ai pris le même format aussi parce que là, c'était des souvenirs en fait qui sont venus sous une forme de, aussi de petites histoires. Ah oui, il y a eu cette anecdote. Ah oui, il y a eu ça. Donc, c'était pas un été où j'étais là, qui aurait été intéressante, hein, mais il aurait fallu que je prenne des notes à l'époque quoi, pour faire ça. Alors que là, c'était en souvenir. Donc, j'ai gardé le même format de chronique.
Et une dernière question, à quoi vous travaillez donc, en ce moment, voilà. Donc, quels sont vos futurs projets?
Oui, de toute façon, je le raconterai pas mal parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est en octobre. Et là, on travaille sur les couleurs, donc là, ça se termine cette semaine. Et l'album va être sous presse au mois de juillet, je crois, et ça sortira en octobre. Et là, je fais une biographie, donc ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'hésitais entre plusieurs personnages, mais là j'ai pris l'histoire d'un photographe qui a une vie assez mouvementée et qui a été le premier à saisir le mouvement, c'est-à-dire qu'il a réussi à photographier le cheval au galop à une époque où la photo instantanée n'existait pas. Et c'est une prouesse technique que j'explique en détail. Il a été, lui, au début de la photo, après il a projeté, donc il a fait du cinéma, il a projeté, il a fait des séances payantes. 15 ans avant Edison et 15 ans avant les frères Lumière, et on l'oublie assez souvent. Et bon, il a aussi tué l'amant de sa femme, donc il a eu une vie mouvementée et à cette époque-là, il a eu un procès où il risquait de la pendaison et ou l'emprisonnement à vie. Et le jury l'a jugé non coupable, donc il est sorti de là sous les applaudissements parce qu'il avait réglé son compte à quelqu'un qui fricotait avec sa femme. Et voilà, dans le Far West, en 1860, ça ne se faisait pas trop et c'est comme ça que c'était jugé pour son cas. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu travailler sur quelqu'un d'autre que de moi. Et comme j'avais fait un peu avec Christophe, mais là c'est sur toute une vie, donc c'est autre chose. Et ma foi, je compte bien en faire d'autres comme ça. Ouais.
Très bien, bah merci Guy. Et puis j'espère qu'on se recroisera puisque vous habitez pas très loin, donc ça serait avec plaisir.